Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire d'aujourd'hui commence par un meurtre sordide. Une jeune prostituée bulgare de 19 ans, Ginka, qui est assassinée en novembre 1999 dans un terrain vague du 13e arrondissement de Paris. Mais pour une fois, je vais vous emmener très loin de l'enquête criminelle, dans les pas d'un journaliste qui a consacré de longues années de sa vie à chercher qui était Ginka, d'où elle venait, qui l'avait emmenée là à tapiner à 19 ans, dans ce terrain vague. Et ce journaliste, il est là en face de moi, il a écrit un livre magnifique paru chez Stock, à la recherche de Ginka. Bonjour Philippe Brossard.
Bonjour.
Je précise que votre livre est beaucoup plus complet, évidemment, que ne le sera mon récit, que voici, je l'ai écrit avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est un meurtre sordide dans un lieu sordide. Un morceau de Paris qui ressemble à l'enfer. Au bout du 19e arrondissement, à la lisière de Pantin, dans le fracas du périphérique et des trains de la gare du Nord. Une petite rue, déglinguée, la rue de la clôture. Et au bout, un terrain vague, la zone. Ne cherchez pas l'endroit, il a disparu aujourd'hui. On l'a rasé pour faire passer le tramway. C'est là pourtant que tout a commencé. Le matin du 22 novembre 1999, vers 7h15, quand on a découvert le corps de Ginka, lardé de coups de couteau. C'est une femme prénommée Huguette qui a trouvé le cadavre. Elle vient tous les matins nourrir les chats errants. Elle l'a trouvé derrière une palissade, près de la déchetterie, couchée sur un matelas crasseux. Une gamine de 20 ans, pas plus, à moitié nue, trouée de partout. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette gamine? Elle tapinait, sans doute. C'est un coin à prostituer. Il n'y a qu'à baisser les yeux, il y a des capotes de tous les côtés. La police débarque, elle déroule des bandes de plastique autour de la scène de crime, et puis arrivent les gars de la scientifique, et en fin de matinée, le corps de la gamine est emmené à l'institut médico-légal, pour autopsie. 23. Elle a reçu 23 coups de couteau. Et elle a dû se défendre, elle a été blessée au bras et aux mains. Donc il s'agit sans doute d'une prostituée. Et vu l'endroit, c'est la filière albanaise, comme on dit. C'est une fille de l'Est, c'est certain. Avant, les prostituées de ce coin-là tapinaient dans une caravane, garée rue de la Clôture. Mais depuis que la caravane a brûlé, elles sont sur le terrain vague, pour faire leurs petites affaires, sur des matelas posés à même le sol. L'amour à 200 francs la passe. Sordide. La gamine est assez vite identifiée par ses collègues. Elle s'appelle Ginka Trifonova. Elle était bulgare. Elle avait 19 ans. Et là, il se passe quelque chose de capital pour la suite. Ce meurtre a toutes les raisons de passer inaperçu. La victime n'est pas française. Il n'y a pas de famille pour demander justice, pour enrôler un avocat, pour se porter partie civile. L'histoire fait trois lignes dans les journaux. Mais une femme, une intellectuelle, une historienne, Delphine Gardé, décide de s'emparer de cette histoire. Il faut dire que ses bureaux, l'endroit où elle travaille, sont tout à côté. Depuis des années, elle est témoin de ce qui se passe dans ce quartier infâme. Des gamines de 18, 19, 20 ans qu'on met à l'abattage. Alors, 5 jours après la mort de Ginka, elle publie une tribune dans Libération. L'horreur est sous nos fenêtres. C'est l'abattage. Elles se relaient, vont de la caravane au boulevard et redescendent. Les hommes font la ronde, ils attendent dans leur voiture ou à côté et ils entrent et ils ressortent, la main sur la braguette. C'est l'été. Il fait chaud, elles sont dans la rue à moitié nues. Nous revenons de la cantine et nous les voyons. Elles urinent sur le trottoir, elles n'ont pas d'eau. Demain, c'est l'an 2000. Le texte de cette tribune est extrêmement fort. Et du coup, eh bien, il ne passe pas inaperçu. Et 15 jours après la découverte du corps de Ginka, il se trouve quelques personnes pour venir déposer une gerbe, là où elle est morte. La police recherche son assassin. Mais ce qui est important, c'est que elle ne soit pas tombée dans l'oubli. Trois semaines après le meurtre, une nuit, une patrouille de police quadrille le 19e arrondissement. Oh, chauffe le type là, il force la voiture. En quelques secondes, le type est maîtrisé. Vous avez rien de dangereux sur vous ? Videz vos poches. Et calmement. C'est un gamin de 20 ans. Il sort une lame de sa poche. Il s'appelle Sonny Sheriff. Il est d'abord ramené au commissariat du 19e, qui appelle la crime, et il se retrouve au 36 quai des Orfèvres.
Je suis SDF. Je dors chez des amis ou dehors. Je n'ai pas de travail. Je fais des petits boulots. Sinon, je vole un peu.
Il passe à table en 5 minutes. Il a voulu lui voler son sac. Elle s'est débattue.
Je sais pas le nombre de coups de couteau que je lui ai donné. Je sais pas, j'étais dans un état second. Après, je suis parti comme un fou.
Je vous passe les détails. Il avait bu beaucoup et pris du Subutex. C'est un pauvre type qui, par ailleurs, a violé une handicapée. Sachez qu'en 2004, pour le viol et pour ce meurtre, il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Mais à partir de maintenant, ça n'est pas lui qui nous intéresse. C'est elle, Ginka. D'où venait-elle ? Pourquoi était-elle là, si jeune ? Qui l'a faite venir de Bulgarie ? Dans quelles conditions ? Il va s'écouler un peu de temps avant que quelqu'un cherche à répondre à ces questions. En 2005, un réalisateur de documentaires, Mosko Bouko, et un journaliste, Philippe Broussard, décident d'aller au bout de cette histoire. Dans le livre qu'il consacrera plus tard à Ginka, Broussard écrit « Mon métier est ainsi fait que certaines rencontres déclenchent un processus intime. Une alchimie étrange, purement subjective, la volonté, ou plutôt le besoin de comprendre, d'aboutir à une forme de vérité. » Il veut tout savoir. Et il veut voir tous les protagonistes de sa courte vie. Tous, de ses parents à son macro. Ça va lui prendre des années. Et d'abord, où est-ce qu'elle vivait, Ginka ? À Paris. On lui parle d'un hôtel du 10e arrondissement, le Paris Magenta, au 48 boulevard Magenta.
Bonjour, je suis journaliste. Est-ce que c'est ici que vivait Ginka ? Ginka Trifonova, c'est la jeune femme qui a été assassinée en 99. Ah ouais ? Ouais, c'est là ? Mais pas sous ce nom-là. Pour nous, elle s'appelait Anna Gela.
Elle s'était donc enregistrée sous un faux nom. Elle n'y est restée que 3 semaines, au mois d'octobre.
Je peux voir la chambre ? Ouais, bien sûr. C'est la 302.
Philippe Broussard hume l'odeur de la chambre. Désuète mais propre. Un lit en 120, un dessus de lit orange, 2 fenêtres sur cour, 150 francs la nuit. Ginka payait en liquide.
Il y a quelqu'un qui fait les chambres ? Je sais pas, moi, une femme de chambre, je pourrais la rencontrer ?
Il se dit que peut-être elle racontera autre chose, un détail, quelque chose qu'elle a vu. Elle s'appelle Maria Blanca, c'est une Espagnole.
Donc vous me dites qu'elle avait mis son poste de radio là, hein, sur la chaise. Et vous savez ce qu'elle écoutait ? Mais elle écoutait surtout Céline Dion, la musique de Titanic et aussi Ricky Martin. Hein, c'était sa musique préférée, ça.
La femme de chambre raconte aussi qu'elle avait posé une photo sur la table de chevet. Une photo de couple, une photo d'amoureux. Un beau jeune homme, brun, qui ressemblait à Ricky Martin. Donc il y avait un peu d'amour dans la vie de Ginka. Il n'y avait pas que des macs et des clients. Philippe n'a pas perdu son temps, en tout cas, en venant dans cet hôtel miteux. Un jour, le journal Le Parisien raconte que la famille de Ginka est venue récupérer le corps, qui reposait dans la fosse commune du cimetière de Thiers, dans le Val-de-Marne. C'est la Croix-Rouge qui a retrouvé les parents. C'est elle qui paye le rapatriement jusqu'au cimetière de Vietovo, en Bulgarie. La mère donne une interview.
Ginka était une jeune fille très fermée. Elle se confiait jamais à moi. Elle me disait juste qu'elle voulait vivre dans le confort. Quand il a disparu, je me suis pas vraiment inquiété. Elle faisait souvent des fugues.
C'est là-bas, en Bulgarie, à Vietovo, que Philippe va découvrir qui était Ginka. Comment elle s'est retrouvée à l'abattage, à 19 ans, dans un terrain vague sordide de Paris. Ginka Trifonova est née à Roussé, en Bulgarie. Les parents de Ginka habitent aujourd'hui une petite ville qui s'appelle Vietovo. Alors Philippe va à Vietovo. Un gros village, hors du temps, où les voitures et les charrettes se partagent la rue. Les parents habitent sur les hauteurs, une petite maison, un jardin potager, un chien blanc qui veille devant sa niche. Et la maman, Rumiana, qui vient à sa rencontre.
Bonjour, bonjour, soyez bienvenue.
Elle doit avoir la cinquantaine et des allures de gitane. Son mari est invalide, elle est la seule à travailler, à la carrière du village. Une assiette de biscuits, une cafetière, Philippe remarque tout de suite la photo de Ginka posée sur un meuble. Un photomaton agrandi. Il écrit « La photo est sertie de crêpes noires, d'œillets artificiels et disposée de telle sorte que Ginka semble observer, je dirais même juger, chacune des personnes présentes. » Assez vite, Philippe s'aperçoit que la mère ne sait rien de ce qui s'est passé. Rien. Elle ne sait absolument pas comment sa fille s'est retrouvée prostituée à Paris. À un moment, elle va chercher un album photo. Ginka bébé, Ginka à l'école, Ginka au bord de la mer Noire. Et puis arrive le grand frère, Vénéline, le petit frère, Ivan, la petite sœur, Tamara. Et c'est avec elle, Tamara, que Philippe a le meilleur contact. Et c'est elle qui lui montre la chambre qu'elle partageait avec Ginka. Et qui lui parle pendant des heures de ses fiancés, de ses chagrins d'amour. À Vietovo, Philippe rencontre aussi Victor. Il était à l'école avec Ginka. Et de tous les copains du village, c'est le seul qui accepte de lui parler.
Elle était gentille. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, vous savez. Moi, je dirais qu'elle était assez seule. Vous savez pourquoi elle est partie? Elle avait honte d'être pauvre. Elle rêvait d'ailleurs. Ici, elle étouffait, hein. Enfin, je crois.
Philippe retourne voir les parents le lendemain et le surlendemain. Et plus ça va, plus il raconte. Ginka, adolescente, faisait des fugues. Des fugues d'une journée ou d'une semaine et à la fin, 2 à 3 fois par mois. Du coup, c'était tendu entre eux. Il n'y avait plus de dialogue. Philippe rencontre aussi le policier qui a eu à gérer les fugues de Ginka.
Je dirais que c'était une fille déprimée. Et sauvage. Et naïve aussi. Elle faisait trop confiance aux gens. Elle attendait ses 18 ans pour être indépendante.
C'est lui, c'est ce policier qui va révéler à Philippe ce dont personne ne lui avait parlé jusqu'ici. 2 mois avant de quitter Vietovo, Ginka a accouché d'une petite fille. Elle l'a appelée Yana, et puis elle l'a abandonnée à l'orphelinat. A priori, personne ne sait qui est le père. Alors dans sa quête, Philippe va voir la directrice de l'orphelinat. Le bébé a été adopté 4 mois après sa naissance. À ce moment-là, Ginka était déjà partie. Comment est-elle partie d'ailleurs? En train? En bus? Personne n'est capable de le dire. Elle est partie une nuit de novembre 1998 en mettant son édredon en boule sous ses draps pour que sa petite sœur ne s'en aperçoive pas tout de suite. C'était un an pile avant d'être tuée à Paris, dans le terrain vague de la rue de la Clôture. Et donc, c'est cette longue année qu'il a vu passer de Vietovo au bas-fond de Paris que Philippe Broussard doit maintenant tenter de reconstituer. Comment, fuguant de chez ses parents, s'est-elle retrouvée à tapiner dans le terrain vague? Qui l'a emmenée là-bas? Philippe retrouve la trace de Ginka, dans une petite ville du sud-ouest de la Bulgarie, Kustendil. Et il apprend là-bas que, 4 mois après être partie de chez elle, elle s'est retrouvée sans papier en Grèce, et elle a été refoulée en Bulgarie, à Kustendil. Et à son arrivée, elle a été interrogée, et voilà ce qu'elle a dit sur procès-verbal. « Je suis arrivé à Kustendil le 5 mars, avec une amie prénommée Sevda. Elle m'a présenté 3 garçons, dont un macédonien. Il y avait 6 autres filles. Nous avons dormi dans un appartement. Le 6 mars, vers 7h30, nous avons été conduites à la frontière à bord de 2 voitures. Nous avons franchi la frontière à pied en passant à droite du poste, soit 1 ou 2 kilomètres de marche. Nous avons passé la nuit en Macédoine avant de partir en Grèce le 8 mars. Là, nous avons été accueillis par 2 Grecs. Ils voulaient que je me prostitue, mais j'ai réussi à m'échapper et à me rendre sur l'île de Thassos. toujours en Grèce, où j'ai été arrêté. Ce procès-verbal est bien intéressant. Elle a donc été prise en main par des proxénètes, jusqu'en Grèce. Et cette fois-là, ça n'a pas marché. Cette fois-là, elle a fui. Alors à quel moment est-ce qu'elle tombe sur les sales types qui lui mettent le grappin dessus? La réponse se trouve peut-être dans les quelques objets que la police a retrouvés dans sa chambre d'hôtel à Paris. Un carnet d'adresses, 21 photos format 10-15, 17 bandelettes de négatives couleurs et surtout, un petit cahier bleu galaxie, son journal intime. Philippe a demandé une traduction. C'est peut-être là que se trouve la clé. Dans le lot de photos, il y a des clichés de Bruxelles, en Belgique. Philippe les pose côte à côte. Elles sont un peu floues, comme toutes les photos que Ginka a prises. Mais on voit des lieux, on voit des bouts de rue, on voit des visages. Alors il prend le train pour Bruxelles. Dans son journal intime, sur ce séjour en Belgique, qui aurait duré au moins 6 semaines, on trouve des mots, travail, argent, et surtout le mot vitrine. En Belgique, les filles se prostituent dans des vitrines, à moitié nues, offertes au regard des passants. C'est ce qu'elle a fait pendant au moins 6 semaines. Philippe a des contacts avec la police belge.
Vous pourriez chercher dans le fichier s'il y a une trace de Ginka Trifonova. T-R-I-F-O-N-O-V-A. Voilà, c'est ça.
Pas de trace. En revanche, elle est connue de l'Office des étrangers. Elle a fait une demande de papier, pas à son nom, au nom de Christova Valentina. Mais la photo et les empreintes digitales correspondent. La demande a été refusée, mais il y a une adresse. Alors Philippe y va. Le propriétaire est plutôt coopératif. Il raconte qu'à l'époque, il louait son appartement à une Albanaise. Mais que beaucoup de monde passait par là. Ginka était bien dans un réseau de prostitution albanais. Et maintenant, vous vous souvenez du beau brun dont a parlé la femme de chambre de l'hôtel à Paris, où elle vivait avant sa mort. Celui qui ressemble à Ricky Martin, vous vous souvenez ? La photo est dans le dossier de police. Et depuis qu'il a obtenu la traduction du carnet intime, Philippe pense l'avoir identifié. Ricky Martin s'appellerait Armando. Et c'est un Albanais. Dans son cahier, elle l'appelle « mon cœur, mon soleil ». Elle écrit « je suis tombée amoureuse de lui la première fois que nous nous sommes rencontrés ». Et Philippe tourne les pages de son carnet et il s'aperçoit qu'elle était complètement dingue de lui. Et à un moment, il s'absente pour aller en Allemagne et elle écrit « mon Dieu, comprenez-moi, je ne peux plus vivre sans lui et je l'aime tellement ». Mais je pense que vous avez compris, non ? Armando, c'est son Mac. C'est lui qui la met à l'abattage dans les vitrines. Elle se prostitue parce qu'elle l'aime. Et lui, il la manipule. Et c'est lui, Armando, qui l'emmène à Paris, où elle va passer 48 jours avant d'être assassinée. Ginka arrive à Paris avec Armando. Elle rejoint d'autres filles, des Albanaises, et ils s'installent dans un petit hôtel. Et d'après ce qu'elle écrit, dès le troisième jour, elle se retrouve sur le trottoir à la Porte Maillot. Et puis après, Armando disparaît sans prévenir. 5 jours avant sa mort, elle écrit « il fait très froid et j'ai envie de rester à l'hôtel ». Je ne sais pas, Armando, si tu le sais, mais je ne veux pas travailler du tout, du tout, du tout, du tout. Et quelques phrases plus loin. Demain matin, je dois aller à la banque pour envoyer 25 000 francs à Armando. Ensuite, on la déplace à la porte de Montreuil. Moins chic. Et puis, à la rue de la Clôture. Beaucoup moins chic. Et voilà, c'est là qu'elle est morte. Philippe Broussard a reconstitué le chemin jusqu'au bout. Il manque un élément capital pour boucler son enquête. Armando. Il veut retrouver Armando. Alors il va à Tirana, la capitale de l'Albanie. Et il se trouve qu'Armando est un prénom très rare en Albanie. Philippe s'est mis des policiers albanais dans la poche. Ils acceptent de passer le prénom, juste le prénom, au fichier. Et une fiche ressort. Un type qui s'appelle Armando et qui a été condamné à 1 an et demi de prison pour trafic clandestin vers l'Italie. Et l'affiche dit aussi qu'il est soupçonné de proxénétisme. intéressant. Et Philippe ne va pas avoir beaucoup de mal à le retrouver. Il est connu comme le loup blanc. Marié, père de famille, riche comme Crésus. Il a plusieurs maisons et il vient d'ouvrir une discothèque à Berat, dans le centre de l'Albanie. Vous connaissez Philippe ? Il y va. Philippe Broussard se rend sur place et il va le rencontrer un midi à l'entrée de sa discothèque.
Bonjour. Je suis un journaliste français. J'essaye de retrouver la trace d'une jeune fille que vous avez fréquentée à Paris. Ginka. Ginka Trifonova. Une Bulgare. Comment dites-vous ?
Ginka.
À Paris ?
Oui, 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 à Paris. Il a l'air déstabilisé, mais il invite Philippe à s'asseoir. Et il allume une cigarette. Et il commence par raconter des sornettes. Qu'il est commerçant, qu'il a connu cette fille à Paris. Et puis il dit
« Je reviens, bougez pas !»
Et il disparaît, pour toujours. Voilà donc pour ce récit. Vous avez compris que pour écrire cette histoire, je me suis appuyé en confiance sur le livre de Philippe Broussard, qui est là avec moi, à la recherche de Ginka, qui vient de paraître chez Stock. D'abord, bravo pour ce formidable travail de recherche que vous avez effectué, qui, moi je le pense, fait d'une certaine manière honneur au journalisme. Cette histoire vous a happé pendant combien d'années ? Parce que Ginka est morte en 1999, le livre paraît là, en 2018. Il s'est écoulé 19 ans.
C'est écoulé 19 ans, effectivement. Disons que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette affaire en 2005. Par l'intermédiaire d'un ami réalisateur de documentaires, Mosco Bouco, qui me contacte et qui me dit « Il y a une histoire, un fait divers qu'il faudrait traiter sous forme de documentaire un jour ou l'autre. C'est l'histoire d'une prostituée bulgare de 19 ans, retrouvée sur un terrain vague à Paris. Je voudrais savoir quelle était sa vie, comment elle est arrivée là. » Et nous avons mené à bien ce
projet. Et à ce moment-là, vous la connaissez un peu ou pas du tout ?
J'avais même pas entendu parler de ce fait divers, pour être très franc. Très franc, non, pas du tout. Et là, donc, on a entrepris un travail d'enquête, qui a donné lieu à un documentaire, mais le projet d'en faire quelque chose de encore plus important au sens journalistique et littéraire du terme m'a toujours obsédé d'une certaine manière, et j'ai eu envie dernièrement, ces deux dernières années, de reprendre l'histoire, de la raconter de manière beaucoup plus longue dans un livre, et également de retourner voir certains protagonistes. Parce que dans notre métier, vous savez, il y a des faits divers qui passent comme ça, et on oublie un petit peu, y compris nous en tant que journalistes. Et là, j'ai vu pour la première fois les parents de Ginka, ça devait être en 2005. Je suis retourné les voir en 2017, 12 ans après. Et évidemment, ce drame restait profondément ancré en eux, mais c'était une émotion extraordinaire de retrouver les parents et les autres enfants de la famille si longtemps après, et de raconter leur histoire.
Est-ce que vous reconnaissez un investissement qui est toujours un peu vulgaire pour le journalisme, mais qui est affectif dans cette histoire ? Est-ce que vous vous êtes attaché à Ginka ?
Attaché à Ginka, peut-être pas tant que ça. Il y a eu d'autres histoires dans ma vie professionnelle, d'autres personnages de ma vie professionnelle auxquels je me suis davantage attaché. En revanche, je me suis beaucoup attaché à son entourage familial, à sa maman, à sa sœur. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dans notre métier des affaires, encore une fois, sur lesquelles vous passez d'une certaine manière, vous les traitez, puis après, bon, d'autres arrivent. Celle-ci est dans une autre catégorie. Il y a des affaires qui vous happent, qui vous prennent, qui entraînent une quête, la quête de vérité, de reconstitution d'une histoire. Et j'ai vécu ça pleinement dans l'histoire de Ginka.
Vous êtes allé sur la scène de crime où n'existait-elle plus quand vous vous êtes intéressé à Ginka ? Parce que le terrain vague n'est plus là.
Le terrain vague n'est plus là aujourd'hui, mais quand j'ai commencé cette enquête...
Il y était toujours.
Il y avait toujours des filles qui faisaient le trottoir autour du terrain vague. Il y avait les personnages que j'évoque dans ce livre. Et si vous voulez, ce qui m'a vraiment fasciné dans cette histoire, c'est de la scène de crime au nord de Paris jusqu'en Bulgarie, en passant par d'autres pays que nous évoquerons peut-être. À chaque fois, c'est d'aller plus loin quelque part que la police, la justice, c'est-à-dire aller chercher au-delà et savoir comment cette jeune femme était arrivée précisément à cet endroit. Et on s'aperçoit à chaque fois, d'étape en étape, qu'on rencontre des personnages, qu'il y a derrière chaque fait divers un sens et une humanité.
Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'elle est la preuve vivante que le travail de journalisme est sans fin. Là, vous avez choisi, dans cette histoire, de suivre l'histoire de Ginka jusqu'à sa source, jusqu'à sa naissance en Bulgarie. Mais vous auriez pu aussi vous intéresser à son assassin, Sonny Chérif, qui est un pauvre type, dont l'histoire méritait sans doute d'être racontée aussi, vrai ou faux ?
Oui, effectivement. Mais j'ai fait le choix de m'attarder sur le destin de Ginka, tout simplement parce que cette petite histoire, d'une certaine manière, raconte la plus grande, c'est-à-dire le destin de ses filles. C'est pour ça d'ailleurs que j'emploie très peu, voire pas du tout, de date dans le livre. C'est une histoire un peu atemporelle, à vocation quasi universelle. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais à travers Ginka, c'est le destin de beaucoup de ces jeunes femmes qu'on voit passer sur nos trottoirs comme des ombres.
Vous avez cherché à retrouver l'hôtel où elle avait vécu les semaines qui précèdent sa mort, mais par exemple, vous n'avez pas cherché à rencontrer les clients. Ils auraient été intéressants, les clients. Vous avez cherché
parce que j'ai regardé dans les listings, les vieux listings de l'hôtel, pour voir le jour où Ginka y était, quels étaient les autres clients. Et j'ai réussi à identifier un représentant de commerce qui était dans la chambre au même étage sur le trottoir, mais j'ai pas, enfin, il est identifié, disons, à avoir son nom, mais j'ai pas retrouvé la trace de ce monsieur.
Je parlais des clients de la prostitution,
parce qu'elle ne s'est pas prostituée à son hôtel, elle s'est prostituée toujours à l'extérieur, mais sur le terrain vague, si vous voulez. Par définition, les clients viennent, il est difficile de trouver des gens qui ont été directement avec elle. Il y a juste un moment, en Belgique, elle a fait l'objet d'un contrôle de police, et là, ce jour-là, le système belge est fait de telle manière que la police contrôle, y compris le client, et note l'identité du client qui, à l'époque des faits, avait pratiquement le même âge qu'elle, et lui, je ne l'ai pas retrouvé.
Alors les parents, le sentiment qu'on a, en tout cas la première fois que vous les rencontrez dans ce village de Bulgarie, c'est que vous êtes plus investi qu'eux dans la recherche de cette histoire.
Quelque part, oui. Alors là, on va assez loin dans l'intimité familiale et dans les fractures familiales. C'est-à-dire que, à la base de la fuite de Ginka, il y a des conflits internes à la famille, comme certaines familles peuvent en connaître avec des adolescents en rupture. Et Ginka était une adolescente en rupture. Et il est arrivé un moment, elle a tant fugué dans sa jeunesse, dans son adolescence, qu'il est arrivé un moment où les parents, quelque part, ont craqué. Ce qui lui est arrivé les a touchés au plus profond, évidemment, ainsi que les autres enfants de la famille. Mais quelque part, la vie a repris son cours. Ils avaient trois autres enfants dont il fallait s'occuper. Et j'ai pu le constater la dernière fois. Ils s'en sont bien occupés puisque je les ai vus. Ils sont trois d'entre eux sont mariés avec des enfants pour certains.
Mais comment ça se passe, cette rencontre entre vous qui avez envie de savoir qui est Ginka et eux qui ne cherchent pas à savoir pourquoi et comment elle a été assassinée?
Au tout début, je pense ils m'ont pris un peu peut-être comme d'autres confrères journalistes qui étaient venus les voir un peu dans l'urgence, qui restent 10 minutes, qui font un son, une image ou une interview de presse écrite et qui repartent. Là, ça a duré plusieurs jours. Donc il y a un travail vraiment de mise en confiance et petit à petit, on arrive à une discussion qui n'est plus un entretien, qui n'est plus seulement journalistique. On va plus loin et on arrive à découvrir une part de la vérité de cette famille, donc de ces gens et du contexte dans lequel le personnage principal, en l'occurrence Ginka, a grandi.
Finalement, vous leur avez fait du bien, aux parents.
J'espère quelque part, parce que par la suite, y compris quand j'y suis retourné récemment, j'ai pu raconter des choses, notamment à sa sœur, qui est vraiment quelqu'un de très bien, des éléments de vie. Sur la Ginka qu'ils n'ont pas connue, c'est-à-dire celle qui a quitté Vietovo, le village de Bulgarie, et qui est partie à l'étranger pour finir malheureusement en France sur un terrain vague.
Vous êtes parvenu à identifier son Mac, l'homme qui l'a mis sur le trottoir, puis dans ce terrain vague à Paris. C'est un Albanais, il s'appelle Armando, et vous l'avez retrouvé, vous avez parlé avec lui. Est-ce qu'il a été dur à retrouver?
La manière dont j'ai retrouvé Armando est peut-être intéressante, c'est-à-dire que Ginka elle-même dans sa chambre d'hôtel laisse des traces quelque part. Un journal intime, un carnet d'adresses, des photos. Ce jeune homme apparaît sur plusieurs photos. Et dans le carnet d'adresses, il n'y a pas son nom directement, mais il y a un surnom qui veut dire mon amour en albanais. Et quand on fait le croisement entre le surnom, le numéro de téléphone, l'Albanie et les appels qu'elle passe de la cabine téléphonique, on tombe sur Armando. Et là, c'est vrai qu'au bout du fil, arrivé devant ce personnage, qu'on a imaginé pendant des mois et des mois, qu'on a traqué pendant des mois et des mois, je vous dis pas que c'est un moment très, très facile. C'est un moment lourd à porter, à la fois professionnellement et humainement. Et c'est un moment qui m'a marqué à vie. Je vous en parle encore maintenant un instant avec émotion, parce que quelque part, on est face à la personne qui a fait basculer Ginka.
Mais l'a-t-elle aimé?
Certainement, bien sûr. Bien sûr.
Et lui, l'a-t-il aimé?
Ce qui est une certitude, c'est que, plusieurs témoins me l'ont dit, et elle-même ne s'en plaint pas dans son journal intime, il ne l'a jamais maltraitée au sens physique du terme. Qu'il l'ait négligée, qu'il ait eu des longs moments de silence, qu'il ait réclamé souvent de l'argent, oui. Maintenant, physiquement maltraitée, non, ça je n'en ai pas la preuve, et même le contraire. Une personne qui les connaissait tous les deux m'a dit non, il n'a jamais été violent avec elle.
Mais donc il y a quand même une déception que le Ricky Martin soit son macro, parce qu'on aurait aimé que Ginka, dans cette courte vie de 19 ans, ait vraiment connu l'amour.
En l'occurrence, avec lui, je ne pense pas qu'elle l'ait connu, elle a eu l'illusion de
le connaître. Mais
avant, peut-être, il y a, je le cache pas, il y a aussi dans la période que j'ai étudiée des zones d'ombre, des zones de disparition. Vous avez chaque personne a ses secrets. Elle a peut-être eu d'autres amours déçus. J'ai essayé de remonter la piste à un moment d'un joueur de football, semble-t-il, un joueur de football professionnel. Peut-être l'a-t-elle aimé, celui-là. En tout cas, elle avait un côté très fleur bleue dans son journal intime, qui est très touchant. C'est un des éléments moteurs pour moi.
Le
journal intime. Quand vous tombez sur ce journal intime, même si c'est en albanais ou en bulgare, mais enfin, j'ai eu la traduction, c'est écrit de manière très naïve. C'est une écriture d'enfant, avec des cœurs, avec Armando écrit en gros « Je t'aime mon amour, quand reviendras-tu ?» ainsi de suite. C'est très naïf et touchant, et ça donne envie de savoir comment elle est arrivée là.
Pourquoi est-ce qu'elle ment dans son journal intime? Parce que mentir à son journal intime, bon, ça serait, c'est à confier à un psychanalyste, hein, comme démarche.
Elle se ment à elle-même, parce que je pense qu'il est arrivé un moment, au début, sans doute, elle était dans une forme de naïveté, voire de négation, voire peut-être d'accord pour pratiquer la prostitution, mais par la suite, elle se ment à elle-même, elle refuse de voir la réalité, que ce gars l'entraîne dans le mur.
Votre livre est écrit sous la forme d'une longue lettre que vous adressez à Yana, qui est donc cet enfant qu'elle a si peu connu, puisqu'elle l'a abandonné à sa naissance, elle a accouché sous X, et l'enfant a été confié à l'adoption. Vous avez cherché à retrouver Yana?
Non.
Vous l'êtes interdit?
Je ne me suis pas interdit, j'ai vu la directrice de l'orphelinat, qui m'a confirmé la démarche de Ginka, la manière dont elle s'était présentée, qui avait un souvenir très étonnamment très très précis de cette rencontre avec Ginka et du jour où l'enfant est resté à l'orphelinat. Mais je ne suis pas allé au-delà. Je ne voulais pas. Je m'adresse à elle, certes, mais pour lui raconter l'histoire de sa mère. Mais je ne sais pas si elle lira un jour ou l'autre ce livre.
Il y a zéro chance qu'elle le lise.
Très franchement, il y a zéro chance. Il est possible, peut-être, si le livre a un écho en Bulgarie, on ne sait jamais.
Il sera édité en Bulgare.
C'est possible.
C'est possible, ça serait intéressant.
Ça serait intéressant maintenant.
C'est la seule chance que Yana le lise un jour.
Maintenant, j'ai bien conscience du fait que c'est un procédé, je dirais pas audacieux, mais un peu risqué quand même, parce que c'est une forme de violence de m'adresser à un enfant adopté, de lui dire voilà ta véritable histoire. J'en ai conscience, j'ai pesé le pour et le contre, pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles, je l'ai fait.
Toute la dramaturgie, évidemment, résidant dans le fait qu'aujourd'hui, Yana à très exactement l'âge qu'avait Ginka quand elle est morte.
Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai attendu si longtemps pour faire ce livre. Il y a à la fois la maturation de cette histoire, l'obsession que j'en avais quelque part, et de me dire, tiens, il faut que je raconte cette histoire au long, et puis de se dire, aujourd'hui, cette enfant est une jeune fille, elle a l'âge de sa mère, elle est peut-être en âge d'écouter l'histoire qui a été la sienne.
Vous en avez fini avec Ginka?
Pas tout à fait. J'attends précisément, si jamais le livre devait être traduit en bulgare, que la famille puisse le lire. J'attends avec un petit peu d'appréhension, je le cache pas.
Ah oui, parce que, évidemment, comme pour l'instant il n'est publié qu'en français, ils ne l'ont pas lu.
Non, ils ne l'ont pas lu.
Mais ils savent tout ce qu'il y a dedans.
Ils savent l'essentiel, parce que je leur en ai parlé. Maintenant, c'est vrai que c'est une affaire dramatique, donc il y a des éléments dramatiques et qui relèvent du dossier, de l'enquête policière, de l'enquête journalistique qui a été encore une fois au-delà de l'enquête judiciaire. Donc c'est aussi une forme de violence, la violence de la réalité.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.